Zamba.
Zambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Merci de rester fidèle à la radio Inzamba à Gaté Kakawe. Nous sommes dimanche le 18 décembre 2022. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous êtes avec Joséphine Jantirundimana. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine par la date du 12 décembre noir pour les familles des victimes des massacres qui ont été commis par des corps de défense et de sécurité et les membres de la milice Modelakure. Ces massacres ont lieu après des attaques des bandes armées qui avaient ciblé quelques camps militaires de Bujumbura dans la matinée du 12 décembre 2015. Le porte-parole de l'armée avait annoncé le matin de ce jour que les assaillants avaient été repoussés. Cependant, cela n'a pas empêché une organisation de représailles avec des rafles, massacres, enlèvements ou viols dans les quartiers de Ngagara, Nyakabiga, Jabe, Musaga et dans la province de Bujumbura. Certains auteurs ont été identifiés mais ne sont toujours pas traduits en justice. La coalition burundaise pour la Cour pénale internationale rassure que les dossiers en rapport avec ces massacres se trouvent devant les juridictions internationales. Suivez Maître Lambert Nigarura, le président de cette coalition.
Les crimes qui ont été commis en date du 11 et 12 décembre 2015, et comme d'ailleurs les autres crimes qui ont été commis depuis le 26 avril 2015 et les jours qui ont suivi, sont des crimes qui ont été bien documentés. Et d'ailleurs, les avocats et les organisations de la société civile ont déjà saisi les mécanismes internationaux, dont la Cour pénale internationale et les différents mécanismes des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a déjà reçu toutes les informations nécessaires pouvant lui permettre de franchir la seconde étape. Et ça, c'est un pas important. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples aussi a fait un pas géant. Et là, nous disons aujourd'hui que cette commission a déjà pris la décision sur le fond et concernant, Burundi, qui avait saisi cette commission après avoir été victime des actes de torture et d'autres crimes lors des manifestations qui ont eu lieu en avril, mai et juin 2015. Aujourd'hui, cette commission a pris la décision le mois passé, et au mois de novembre, lors de la session de la commission. Et nous attendons donc la mise en œuvre, la mise en exécution de cette décision. Et nous sommes conscients que, bien qu'il y ait trop de temps, l'attente a été trop longue. Mais heureusement, aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits par les étapes qui ont déjà franchi, qui ont déjà été franchies par les différents mécanismes saisis, la Commission africaine et surtout la collecte des informations utiles par le bureau du procureur.
Poursuivons cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine par le dossier de la justice. Comparution ce jeudi dernier de Maître Germain Nina, ancien employé de la ProDH à la Cour d'appel de Ngozi. C'est après la décision de la Cour suprême de renvoyer ce dossier pour vice de qualification. Human Rights Watch salue cette décision et demande la libération de Germain Nina sans condition. Les détails avec Bonfils Niyongere.
Après la décision de la Cour suprême en chambre de cassation de renvoyer le dossier Germain Nina pour vice de qualification, ce jeudi, cet avocat et ancien employé de la ProDH arrêté le 13 octobre sur la colline Tondero en commune Kabarore de la province Kayanza a comparu pour la première fois à la Cour d'appel de Ngozi. Tony Germain Nina a été condamné pour 5 ans d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Kayanza. Il a été accusé de collaborer avec le mouvement Red Tabara. Ce jugement avait été confirmé par la Cour d'appel de Ngozi où Germain Nina avait interjeté appel. Ce jeudi, il a comparu pour la première fois après cette décision de la Cour suprême à la Cour d'appel de Ngozi. Au cours du procès, le procureur de la République à Kayanza, qui est son co-accusé, n'a pas pu apporter des réponses satisfaisantes pour qualifier les faits. Human Rights Watch se réjouit du renvoi de ce dossier par la Cour suprême pour qualification des faits. Cette organisation internationale de défense des droits humains demande à la justice d'user de son indépendance pour libérer Germain Nina.
Human Rights Watch, nous accueillons et nous sommes encouragés par la décision de la Cour suprême d'annuler la condamnation de Tony Germain Nkina et de renvoyer le cas devant la Cour d'appel Ngozi. Nous appelons les autorités judiciaires à faire preuve d'indépendance et à quitter et immédiatement libérer Tony Nkina, qui est emprisonné maintenant depuis plus de 2 ans injustement.
L'affaire a été mise en délibéré. La nouvelle comparution est prévue 16 janvier 2023.
Au chapitre des droits de l'homme, jusqu'au 1er décembre 2022, 363 journalistes étaient derrière les barreaux dans le monde, selon le recensement fait par le Comité pour la protection des journalistes CPJ. Parmi ces journalistes, Floriane Irangabiye, une journaliste burundaise de la radio Gicaniro, incarcérée dans la prison de Muyinga depuis le mois d'août. Elle est reconnue par le recensement de la CPJ comme la seule femme journaliste emprisonnée en Afrique pour son métier. Pour Tom Gibson, représentant de l'Union européenne au sein de cette organisation, cet emprisonnement montre à suffisance que le Burundi reste un environnement difficile pour le travail des journalistes et demande qu'ils soient libérés sans condition. Suivez-le.
Au Comité pour la protection des journalistes, nous continuons à lancer l'appel que Floriane Irangabiye soit libérée immédiatement et sans condition, et qu'elle soit autorisée à continuer sa vie et son travail sans autre ingérence. Elle a été arrêtée en août de cette année. Elle reste en détention. Elle est la seule femme journaliste d'Afrique subsaharienne qui se trouve actuellement en prison. Alors, sa détention est importante parce que ça montre que le Burundi reste un environnement difficile pour les journalistes. Il y a une certaine hostilité de la part des autorités burundaises contre les journalistes et surtout les journalistes en exil. C'est un message que, en fait, les journalistes peuvent être traités comme les opposants. Ça limite l'espace pour les activités légitimes pour les journalistes. Le droit des journalistes est de travailler et voyager librement sans ingérence. Il y a de leur part une obligation nationale et internationale pour protéger la liberté d'expression. Mais il est clair que les autorités continuent à ne pas tolérer les critiques légitimes. Et les Burundais méritent une presse libre et dynamique qui doit permettre, en tant que citoyen, de recevoir les informations fiables et aussi de demander la rédhabilitation du pouvoir burundais.
Et puis en politique, adoption ce jeudi dernier à l'Assemblée nationale de la loi organique portant délimitation des provinces, collines et quartiers du Burundi. Martin Nineretse, ministre burundais de l'Intérieur, a expliqué aux députés la nécessité de ces délimitations pour le développement du pays. On l'écoute.
Premièrement, le développement communautaire s'étend sur toutes les collines et sur les quartiers du pays. Deuxièmement, rapprocher toutes les activités des communes à la population en les transférant dans les zones. De trois, s'entraider dans le développement. Quatrièmement, augmenter la production des communes. Cinquièmement, agrandir les terres cultivables parce que nous allons construire des villages. Six, renforcer la paix et la sécurité. Septièmement, renforcer la paix et la bonne cohabitation. Et puis, 8, réduire les budgets qui étaient alloués aux provinces et aux communes pour augmenter les moyens à engager pour le développement. De 9, pour mieux suivre les activités des provinces et des communes afin de mieux servir la population. Pour terminer, nous voudrions préciser que le fait de rapprocher les autorités administratives à la population est un très bon procédé qui a permis d'asseoir le développement durable dans notre pays.
Le ministre Nineretse a ajouté que même si le nombre des provinces a diminué, celui des zones et des collines a augmenté. On l'écoute encore une fois.
Rappelons que les provinces qui étaient au nombre de 18 sont maintenant à 5 et les communes qui étaient 119 sont ramenées à 42. Les zones qui étaient presque à 99 montent à 450, de même que les collines et les quartiers qui sont maintenant à 3041 contre 2911 auparavant. Ce qui veut dire que le nombre de provinces et de communes a été réduit, tandis que le nombre de zones et de collines et quartiers a été vu à la hausse.
Pour clore cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine, la banque panafricaine Ecobank Burundi est accusée de corruption dans l'affaire qui l'oppose avec la famille Vincent Niyubonu. Les voisins de cette famille qui le disent se base sur le fait que cette banque a refusé de recevoir une somme qui restait pour liquider à crédit du regroupement auquel la famille Vincent Niyubunu avait prêté le titre de propriété de sa maison et surtout le fait que la maison devrait être revendue par la banque à vil prix. Des sources proches de la présidence affirment que le dossier est connu et qu'il est en cours d'instruction par un des conseillers du président. Les détails avec Pierre Gahungu.
Des témoins parmi les voisins de la famille de Vincent Niyubunu affirment que ce dossier renferme des zones d'ombre, surtout la collaboration de l'Ecobank Burundi et le tribunal du commerce. Selon eux, l'exécution ne devrait avoir lieu alors que la famille de Vincent avait proposé de payer 175 millions à l'Ecobank qui restait pour vider le crédit et que la banque a refusé cette proposition. L'exécution de ce lundi aurait été planifiée en connaissance de cause. Elle aurait profité de l'absence du chef de l'État au pays. À chaque fois que la banque a voulu exécuter, la présidence a toujours intervenu.
Le président de la République avait annulé la décision de les chasser de cette maison. Ils avaient tenté de le faire à trois reprises. Ce qui est de ce vent, c'est qu'ils avaient demandé le secours du président et celui de la justice cria qu'ils étaient prêts à payer la somme exigée pour que les maisons ne soient pas saisies. Il était au point de payer 175 millions, mais l'Ecobank a catégoriquement refusé de prendre l'argent.
Deux des responsables du groupement que la famille de Vincent a prêté le titre de cette maison ne s'inquiètent pas alors qu'ils ont des biens que l'Ecobank pouvait saisir. Il s'agit de Porona Jean-Claude et Fabrice Ndoïsava qui ne cessent de menacer la famille selon toujours les voisins de la famille.
Il y a un certain François de l'Ecobank Burundi, il aurait dit à la famille et à l'avocat qui défend la cause de cette famille que les chasser de la maison est devenu difficile, que par conséquent une autorité influente qui va user de la force et les chasser. Même la justice est au courant. En témoigne la présence de réguliers dans certains artements, le petit frère de Wakenya, général Manila Mbona, que le président de la République intervienne pour sauver la famille. Ceux qui ont été avalisés, ils sont là en toute liberté. Ils ont leur maison, ils ont de l'argent pour rembourser les cobanques, mais personne ne leur demande quoi que ce soit.
L'autorité qu'avait prédite cet agent de l'Ecobank serait le général Christophe Manirambona, alias Wakenya, le nouvel acquéreur de cette maison. Les voisins de la famille demandent le secours du chef de l'État pour qu'elle soit rétablie dans ses droits. Nous avons essayé de contacter Jean-Claude Karegwa, conseiller à la présidence, sans succès. Cependant, des sources à la présidence nous ont confirmé que ce dossier est bel et bien dans les mains d'un conseiller du président. Nous n'avons pas encore trouvé le chargé des questions juridiques au sein de l'Ecobank Burundi pour s'exprimer sur ce dossier. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. Passez un très bon dimanche, à la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.